les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, en fait, c'est plutôt Sylvie Barnet que nous retrouvons dans cette émission consacrée à un mot des religions et elle a choisi le mot prophète. Ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est qu'elle vient de publier La parole habitée, les grandes voies du prophétisme. C'est dans la collection Sagesse, dans la collection Point Sagesse, et aussi parce qu'elle a participé au livre d'André Vaucher de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres qui s'appelle « Prophète et prophétisme ». Alors bonjour Sylvie.
Bonjour Hélène.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler de ce mot « prophète » qui déjà répond à une définition un peu différente de ce qu'on croit généralement. On croit généralement que c'est celui qui parle à l'avance, le prophète, ou qui voit l'avenir, non ?
Alors, pas du tout. Le prophète, c'est pas d'abord celui qui voit l'avenir, c'est celui qui voit le temps présent et qui, au cœur du temps présent, arrive à voir une lumière pour tous les hommes et dit cette lumière même lorsque l'histoire est plongée dans les ténèbres, même lorsqu'il est minuit dans l'histoire. Et le prophète, par définition, c'est un homme à la parole habitée. C'est un homme dont la parole est habitée d'un souffle inspiré autant qu'ils habitent cette parole. Pour ainsi dire, il parle Dieu, il parle la parole divine.
C'est donc pas n'importe qui peut-être être prophète. Est-ce qu'il y a différentes sortes de prophètes ?
Alors d'abord, je crois que le prophète ne choisit pas d'être prophète.
Hein. Oui,
il y a quelque chose.
Pas un métier.
Je pense, toute la Bible est là pour dire enlève-moi ce joug parce que les prophètes ne veulent pas être prophètes. C'est même une des caractéristiques des récits
plutôt
bibliques
mal vu, en général.
Que de raconter pourquoi le prophète ne veut pas de cette mission. Et ensuite, une des caractéristiques du récit biblique, c'est de raconter la différence entre un vrai et un faux prophète. Et bien précisément, le vrai prophète, il ne joue pas au prophète. Le vrai prophète, il est saisi par une parole, il porte l'empreinte de Dieu en lui d'une manière telle que sa parole est comme un feu, comme un marteau qui fracasse le roc. Il ne peut pas la retenir, il ne peut pas la taire, dit le livre de Jérémie. Il ne peut taire cette parole, elle le brûle s'il ne la prononce pas.
Sylvie Barnet, vous faites tout de suite allusion au prophète de la Bible, mais le mot prophète, c'est un mot qu'on trouve dans les autres religions, pas seulement dans la religion judéo-chrétienne.
Alors, le prophète, s'il désigne au départ un homme de la tradition juive, c'est un mot d'origine grecque qui désigne, dans les autres cultures, des hommes au regard perçant chargés de dire la parole des dieux. Mais dans la tradition judéo-chrétienne, le prophète va prendre un sens bien précis. Il va prendre le sens de celui qui est chargé de parler de l'alliance, de la relation entre les hommes et Dieu. Et la Bible, pour le dire, utilise parfois une tournure juridique qui est celle de l'alliance, une alliance qui définit des droits et des devoirs de Dieu envers les hommes et des hommes envers Dieu. Et donc, le prophète, en quelque sorte, c'est celui qui est garant de l'alliance dans la Bible. C'est celui qui va raconter quand est-ce que les hommes sont en proie au mal, quand est-ce qu'ils détruisent cette alliance. Et dans ce cas-là, ils se font prophètes de malheur, puisque ce qui va arriver, ça sera le pire. Et par ailleurs, le prophète, c'est aussi celui qui est chargé de dire la lumière de Dieu au milieu des hommes.
Sylvie Barnet aussi, vous ne l'abordez pas dans votre livre, car votre livre « La parole habitée », vous n'étudiez justement que le judéo-christianisme, mais il y a tout de même un grand prophète, c'est l'islam. Par définition, le prophète aussi, donc on ne peut pas l'oublier. Mais vous ne l'étudiez pas dans votre ouvrage.
Non, et puis là, je dirais qu'à chaque culture va donner au prophétisme sa propre définition. Il y a aussi, bien entendu, des prophètes dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Simplement, nous sommes dans une autre culture qui va donner une charge culturelle différente aux termes auxquels il va renvoyer dans ces cultures.
Et vous avez, je crois, pour chaque prophète, ou disons pour des familles de prophètes, vous avez donné des textes fondamentaux. C'est une anthologie, votre livre.
C'est une anthologie. Hein. Ce qu'il s'agit, c'est de faire entendre la parole habitée. Et on se rend bien compte que cette parole habitée, elle évolue au fil des siècles. Par exemple, lorsqu'on passe au tournant du 1er siècle, lorsque le christianisme fait son apparition, à ce moment-là, le texte évangélique va raconter comment le Christ n'est pas seulement un prophète, il est plus qu'un prophète, il est le Messie annoncé par les prophètes. Et à ce moment-là, le Christ va relire et va porter la triple fonction prophétique assignée autrefois dans la Bible aux prophètes. Il va être celui qui va déchiffrer les Écritures, révéler leur sens comme Moïse en les relisant. Il va être celui qui va manifester la parole divine par des gestes. Et le geste le plus éclatant, c'est celui de la résurrection. Voilà un geste qui signifie ce qu'il dit, qui réalise ce qu'il fait. Et puis, il va annoncer un royaume de Dieu, c'est-à-dire un ordre divin voulu par Dieu pour tous les hommes.
Alors dans votre livre, vous passez en revue différentes époques. Il y a évidemment toute la période biblique et disons début du christianisme. Après, il y a le Moyen-Âge. Il y avait des prophètes au Moyen-Âge. Puis après, il y a la période dite moderne qui va du 16e jusqu'à, disons, 19e. Et la période dite contemporaine qui est le 20e et peut-être même le 21e. Alors, on ne va pas pouvoir passer en revue, Sylvie, tous les prophètes que vous abordez dans ce livre parce qu'il y en a une soixantaine. Je vous en propose trois. La première, au Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen.
Alors, Hildegarde de Bingen, c'est une prophétesse du XIIe siècle. Alors, bien entendu, elle s'inscrit dans une posture prophétique. Elle ne dit pas elle-même qu'elle est prophétesse. Hein. C'est son entourage qui va la désigner comme telle. Et le pape Eugène III verra même en elle une lumière pour les hommes de son temps. Et Hildegarde de Bingen va dénoncer la corruption de son temps, va dénoncer les richesses de l'Église, va dénoncer la corruption du pouvoir, quand gouverner, ce n'est pas servir. Hein. Et elle aura bien entendu maille à partir avec les représentants théologiques de son époque.
Est-ce que ce n'est pas un des rôles du prophète, justement, que de dénoncer ce qui ne va pas et d'appeler à un changement ? On ne peut pas dire une conversion, mais en tout cas un changement.
Oui, puisque le prophète, c'est d'abord celui qui appelle à une conscience, c'est-à-dire qui appelle à plus d'humanité dans l'humanité. Et quand l'humanité se dérègle, quand il n'y a plus d'humanité ou qu'il risque d'y avoir perte d'humanité à un point tel qu'elle en devient monstrueuse, et bien à ce moment-là, un prophète se lève et va réveiller les consciences. Et c'est exactement ce que fait Hildegarde de Bingen dans son temps. C'est exactement ce que va faire également en son temps Nostradamus.
Alors, Nostradamus est vraiment un prophète ?
Alors, Nostradamus, c'est un homme du XVIe siècle qu'on présente évidemment, je pense que si on interroge quelqu'un dans la rue, on va dire Nostradamus, parce que Nostradamus est présenté comme un devin, comme un mage. Alors, comment ne pas se tromper dans le vocabulaire ? Eh bien, d'abord, Nostradamus, il a une pensée qui a été instrumentalisée. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant d'illuminisme et d'ésotérisme chrétien qui va se revendiquer de la pensée de Nostradamus pour tirer l'idée que le prophète, c'est un homme qui annonce l'avenir, qui prévoit les choses futures. Et Nostradamus va écrire ses fameux centuries aux termes très énigmatiques qui vont appeler différentes plumes au sein des mouvements ésotériques chrétiens, entre autres, pour pouvoir interpréter ces textes. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, Nostradamus, c'est un homme qui vit en pleine guerre des religions. L'époque est terrifiante, les hommes s'entretuent pour des questions religieuses. Et qu'est-ce que fait Nostradamus ? Eh bien, il est comme un prophète qui se lève pour dénoncer le mal et pour annoncer un futur aux hommes de son temps, c'est-à-dire une vie.
Donc Nostradamus est un prophète, voilà.
Et à ce moment-là, Nostradamus est dans une posture prophétique. Et il écrit des centuries, non pas de manière énigmatique, de façon à ce qu'on les interprète, mais il écrit littéralement en énigme, au sens que ce mot peut prendre dans la Bible. C'est-à-dire que, comme le dit saint Paul, il écrit en déplaçant les mots de leur sens, de façon à ce que, à la manière d'un miroir, ces mots puissent fonctionner comme la révélation. En miroir, disant quelque chose de la révélation qui ne peut pas se dire de manière directe, mais qui va se dire de manière figurée, de manière énigmatique au sens propre du terme. Et le problème, c'est qu'ensuite, on va tirer sa pensée du côté d'une énigme que Nostradamus lui-même n'a jamais voulu dire. Il était en posture prophétique, c'est-à-dire qu'il essayait, comme les prophètes bibliques, d'écrire quelque chose pour les hommes de son temps qui parle de la révélation divine, qui parle la langue de Dieu.
Alors, sautons quelques siècles, Sylvie Barnet, et arrivons peut-être au XXe siècle. Vous considérez dans votre livre, et chaque fois d'ailleurs que vous abordez les grands textes prophétiques, vous resituez le contexte historique, il faut le dire, il y a un gros travail de présentation aussi dans ce petit livre, mais très bien travaillé. Le troisième, ce serait Eti Ilsoum.
Alors, Eti Ilsoum, avec quelle catégorie parle-t-on d'Eti Ilsoum ? Il y a beaucoup de livres magnifiques, je pense notamment aux écrits de Sylvie Germain qui ont été écrits sur Eti Ilsoum. Et on a beaucoup de mal avec Eti Ilsoum. Comment la classer ? C'est une femme extraordinaire dans le camp de Westerbork. Tous les témoignages qui sont restés d'elle parlent d'elle comme d'une figure rayonnante qui apporte la consolation aux hommes qui l'approchent. Et dans le camp terrible où sont envoyés des centaines de gens vers les portes de la mort. Et donc, Eti est là et dans le journal qu'elle a laissé, qui est un journal qu'elle a laissé malgré tout. Elle ne l'avait pas dessiné pour la publication, il nous est resté. Elle écrit à un moment donné cette phrase extraordinaire. Elle dit « J'ai rompu mon corps comme on rompt le pain ». et je l'ai donné en partage à tous les hommes. Et quelque part, il y a là quelque chose qui ressemble à un geste chrétien du partage du pain à l'Eucharistie, mais qui n'est pas un geste chrétien, parce qu'est-il le soumis juive ? Et avec quelle catégorie va-t-on parler d'Éti ? Eh bien, peut-être avec la catégorie du prophète. Le prophète étant celui qui annonce un à venir à tous les hommes, qui va révéler une lecture religieuse pour les hommes de son temps, à même de leur faire entrevoir le Dieu qui fait sens.
Qui devait être bien caché, effectivement, à l'époque où elle vivait, et dans l'endroit où elle vivait. Donc, si vous souhaitez approfondir cette notion de prophétisme, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus qu'on ne pourrait croire, je conseille de lire le livre de Sylvie Barnet, La parole habitée, Les grandes voies du prophétisme. Nous n'en avons abordé que 3, mais il y en a plus de 60 dans cet ouvrage. C'est paru chez Point dans la collection Sagesse. Merci Sylvie Barnet. Au seuil. Et puis aussi, on peut lire l'ouvrage auquel vous avez contribué d'André Vaucher, qui est aussi interviewé sur Canal Académie pour cette grande émission sur prophète et prophétisme qu'il aborde, lui, sous un angle sans doute plus historique.
Tout à fait.
Merci Sylvie Barnet. À bientôt pour un autre mot des religions.
Merci.